Ça jase à Lyon sur Jazz Radio et LyonMag.com avec Alexis André.
Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Ça jase à Lyon. Je reçois ce matin Baptiste Ménéguine, membre du réseau des professionnels de l'urgence sociale. Baptiste Ménéguine, bonjour.
Bonjour.
À 3 semaines de la fin de la trêve hivernale, vous tirez la sonnette d'alarme. On le sait, à cette date, les centres d'hébergement hivernaux ferment leurs portes. Quel constat vous faites, vous, tous les jours dans les rues de Lyon et de l'agglomération ?
Les deux constats principaux qu'on fait quand on travaille dans le secteur de l'urgence sociale à Lyon sont premièrement la dégradation d'année en année de la situation au niveau de la précarité des personnes et au niveau du nombre de demandes des personnes qui demandent un hébergement. Le nombre de personnes sans solution au 115 est actuellement de 1500 personnes qui appellent le 115 tous les jours sans obtenir une place d'hébergement parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Le deuxième constat, c'est une absence totale de politique ou de réaction adéquate des services de l'État qui sont censés gérer ce système de l'hébergement d'urgence qui relève de leur pleine compétence.
Alors vous le dites, le 115 est actuellement saturé dans le Rhône. Combien de places d'hébergement d'urgence il faudrait ouvrir à Lyon en plus pour arriver à une situation plus acceptable ?
Si l'on rajoute aux 1500 personnes qui sont en demande actuellement et qui n'arrivent pas à obtenir un hébergement par manque de place, si on rajoute à ces personnes les 400 à 600 personnes qui vont être remises à la rue à la fin du mois de mars, on arrive à plus de 2000 places manquantes sur le département du Rhône.
Alors justement, quand les centres d'hébergement ferment, est-ce que tout le monde se retrouve vraiment à la rue, quel que soit son âge, sa potentielle maladie, sa condition physique, ou est-ce qu'il y a des structures qui peuvent reprendre en main après les dossiers des personnes les plus fragiles ?
Ce travail-là a été fait pendant les mois d'ouverture des structures d'hébergement, donc les personnes qui ont eu la chance de se voir proposer une solution sont déjà sorties des structures.
D'accord.
On était à plus de 900 places ouvertes pendant l'hiver. On annonce le chiffre de 400 à 600 personnes qui vont être remises à la rue parce qu'on ne sait pas encore précisément combien seront dans cette situation. Donc certaines personnes ont déjà trouvé une solution. Il y a 400 à 600 personnes qui resteront sans solution et qui, eux, seront remis à la rue sèchement du jour au lendemain.
Alors on évoque principalement le quotidien très dur, inadmissible de ces personnes qui dorment dans la rue le soir, mais les professionnels de l'urgence sociale du Rhône aujourd'hui, dans quel état d'esprit se trouvent-ils ?
Quand on travaille dans le secteur, nos missions c'est d'accompagner les personnes, de leur donner de quoi vivre de façon digne.
Mmh.
Les missions pour lesquelles on est salariés par les associations qui nous emploient, on ne peut plus les faire aujourd'hui par manque de moyens. Donc c'est un petit peu un non-sens que de se retrouver dans cette situation-là où on est payé pour une mission qu'on ne peut pas faire au quotidien. La situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est une situation où il y a plus de sens dans notre travail au quotidien et où on n'en peut plus non plus de cautionner un système qui tourne à vide et qui produit des désastres par des gestions complètement inadaptées de la part des pouvoirs publics.
Et du coup, vos missions se retrouvent impactées ? Est-ce que les situations sont plus tendues le soir quand vous allez voir les personnes qui sont dans la rue ? Par rapport au fait qu'il n'y a vraiment plus de place dans l'hébergement d'urgence.
Les personnes qui sont dans la rue, par exemple, sont habituées à cette pénurie permanente, pénurie qui s'accentue d'année en année.
Oui.
Donc beaucoup ont abandonné le fait de solliciter les services du 115, par exemple. C'est pour ça que le chiffre de 2000 places manquantes est bien inférieur aux besoins réels, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ne sollicitent même plus les services d'hébergement parce qu'elles savent qu'il n'y a pas de place ou que c'est très compliqué d'en obtenir une. Donc les personnes sont partagées entre un sentiment de résignation et puis une grande colère de se retrouver dans des situations qui sont toutes plus dramatiques les unes que les autres. Sachant que toutes les personnes qui sont rentrées dans les hébergements temporaires ont été triées sur le volet par les services de l'État en amont de leur entrée et qu'elles étaient déjà toutes dans des situations avec des problématiques de santé, des problématiques avec des personnes âgées ou des enfants en bas âge. Donc voilà, la question de la vulnérabilité avait été pensée en amont de leur entrée. Donc toutes les personnes qui vont sortir sont déjà des personnes très très fragilisées.
Alors comment vous et votre profession avez accueilli les récentes promesses de Sylvia Pinel, la ministre du Logement, concernant la refonte de l'hébergement des personnes en difficulté ? Elle prévoit notamment de créer 13 000 places d'ici 2017, de faire des nuitées d'hôtel l'exception, et puis d'en finir avec la gestion saisonnière.
Alors les annonces ministérielles sont une chose à laquelle on est habitué depuis quelques années, depuis 5 ans maintenant, depuis les débuts et la mise en avant du logement à la place de l'hébergement. Il y a eu des dizaines et des dizaines d'annonces. Cécile Duflot, lors d'un de ses passages à Lyon les années précédentes, avait annoncé la fin des plans froids et des renforts hivernaux. La fin de la gestion saisonnière de cette question de l'hébergement, il n'en est rien aujourd'hui. Théoriquement, le discours des ministres est plutôt cohérent.
Mmh.
On le partage, on est d'accord avec ces orientations-là. Dès qu'on redescend au niveau local, les services de l'État n'ont ni les moyens ni la volonté de faire évoluer la situation.
Alors justement, vous avez écrit au préfet du Rhône pour lui demander à être reçu rapidement. Dans votre communiqué, vous n'avez pas pourtant des mots très tendres envers lui. Hein. Vous dites qu'il piétine la loi et la République. Vous n'avez pas une relation très positive avec le préfet ?
Pour nous, la question de la loi est vraiment centrale. Notre travail en tant que professionnel, c'est d'accompagner les gens à faire valoir leurs droits. Le droit à l'hébergement est une liberté fondamentale, au même titre que les autres libertés fondamentales. Ça a été reconnu par le Conseil d'État au mois de février de l'année 2012. Donc c'est quelque chose qui est clairement défini par les articles de loi, et la loi est aussi notre outil de travail. Quand on se retrouve dans une situation où un représentant de la République française ne respecte pas la loi, la bafoue, la nie au quotidien, on a d'autre choix que de dénoncer cette situation publiquement et de pointer les responsabilités des personnes qui font cette politique-là et qui sont responsables de cette situation.
Alors vous l'avez dit, ça fait déjà plusieurs années que vous dénoncez cette situation. Vous avez déjà eu l'occasion d'interpeller les services de la préfecture. Qu'est-ce qu'on vous a répondu jusqu'à présent ?
Les réponses sont très évasives, donc souvent on conteste les chiffres qu'on donne.
Ouais.
Parfois on reconnaît qu'il y a eu des augmentations de budget les années précédentes, ce qu'on ne nie pas, hein. Il y a une grosse augmentation des budgets sur la partie urgence. Ce qu'on conteste, nous, c'est l'utilisation de ces crédits et le gaspillage de l'argent public qui est fait par les services de l'État. Par exemple, en ce moment, dans les associations qui ont ouvert des centres d'hébergement temporaire pendant l'hiver, il y a des places vides qui sont financées jusqu'au 31 mars, alors qu'elles sont vides depuis quelques jours, quelques semaines ou plusieurs mois.
Alors vous savez que le préfet du Rhône, Jean-François Carinco, doit être muté à Paris dans quelques jours. Hein. Qu'est-ce que vous attendez de son remplaçant, Michel Delpuech ? Est-ce que vous pensez qu'il peut faire un geste fort en arrivant en votre direction, ou est-ce que vous craignez que le temps qu'il prenne ses marques, eh bien, il mette un peu votre requête de côté ?
Alors ce qu'on espère, c'est qu'il ait une gestion un petit peu plus honnête et un petit peu plus cohérente de la situation. On espère avoir des relations constructives avec lui pour pouvoir lui donner notre point de vue et lui faire partager nos constats au quotidien. Après, on n'a pas d'espoir sur un changement brutal sur les positions de l'État au niveau local, mais en tout cas, on essaiera de rentrer en contact avec lui dès son arrivée pour pouvoir traiter de ces questions qui sont primordiales pour nous.
Et si vous n'êtes pas entendu par la préfecture, vous prévoyez déjà de vous mettre en grève, de manifester? On avait vu en décembre que le 115 aussi avait interrompu ses services quelques heures. Est-ce que ça sera suffisant selon vous?
Alors je ne sais pas si ça sera suffisant. En tout cas pour nous, il est important de porter haut et fort ces questions-là par des mouvements de mobilisation qui peuvent être la grève, qui peuvent être d'autres formes d'action. Donc on est en train d'organiser ça, et on adaptera cette réponse à ce que nous dira la préfecture par rapport au courrier envoyé.
Merci Baptiste Meneghin. Notre entretien est à retrouver en intégralité sur lyonmag.com.
Ça jase à Lyon sur Jazz Radio en partenariat avec lyonmag.com.